Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité. Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans un instant, comme tous les jours. Ce sont vos questions à la rédaction d'RFI. C'est votre rendez-vous privilégié avec les journalistes ici au sein de la rédaction, nos envoyés spéciaux, nos correspondants à travers le monde. Le principe, vous le connaissez, il vous manque des clés, des repères pour mieux comprendre l'actualité. Eh bien c'est simple, vous nous appelez ici à Paris, 33 9 693 693 70. Si vous êtes en France, vous composez évidemment le 09 693 693. 93 70. Vous nous contactez, nous notons vos coordonnées et nous vous rappelons évidemment dans les minutes qui suivent. Et vous pouvez également nous envoyer vos questions sur les réseaux sociaux et notamment sur la page Facebook de l'émission, la page officielle RFI Appel sur l'actualité. Dans 30 minutes, comme tous les jours, un débat et nous parlerons tout à l'heure de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo et principalement dans la province du Nord Kivu où depuis le mois d'octobre, plus de 200 personnes ont été tuées à l'arme blanche, des massacres qui n'ont jamais été revendiqué, mais le gouvernement et l'ONU voient dans ces tueries la marque de rebelles ougandais, les rebelles de l'ADF Nalu. En tout cas, sur place, la population est exaspérée par l'incapacité de l'armée congolaise et des casques bleus à empêcher ces massacres. Alors, comment expliquer la multiplication de ces attaques? Comment garantir au mieux la sécurité dans cette province? Et pourquoi, finalement, est-il si difficile d'anéantir ce groupe rebelle qui ne compterait que 400 combattants? On en parlera ensemble. Vos réactions nous arrivent déjà sur la page Facebook de l'émission. J'en lirai évidemment quelques-unes tout à l'heure pour alimenter le débat et la réflexion. 33 9 693 693 70. La première question nous vient de Berlin. Eric est avec nous. Bonjour.
Bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Vous avez des questions sur l'Ukraine?
Oui Juan, bonjour. Voilà, j'ai reçu la semaine passée en Ukraine la création d'un nouveau gouvernement et du coup Juan, j'ai été frappé à la nomination des étrangers donc à ce gouvernement. Voilà Juan, ma première question était de savoir qu'est-ce qui peut donc motiver, qu'est-ce qui doit apporter les raisons donc aux Ukrainiens de nommer à des postes aussi clés des étrangers et Juan, et puis la deuxième question était de savoir quel peut être, comment a été donc perçu dans l'opinion publique ukrainienne suite à la nomination des étrangers donc à ces postes.
Ouais, des étrangers effectivement nommés au ministère des Finances, de l'Économie et de la Santé. Finances et économie, ce sont effectivement, comme vous le disiez Eric, deux ministères ultra importants. Hein. Bonjour Anastasia Becchio.
Bonjour Juan, bonjour Eric, bonjour à tous.
Alors le président Petro Porochenko a accordé la nationalité ukrainienne à trois personnalités qui dans la foulée ont immédiatement été nommés ministres. Pourquoi nommer des étrangers?
Alors c'est vrai que c'est assez original. Alors l'idée c'est d'amener à des postes importants des professionnels qui seront suffisamment éloignés des cercles du pouvoir ukrainien, qui n'auront pas ou peu de liens en tout cas avec l'élite politique ukrainienne pour pouvoir mener à bien des réformes délicates. L'Ukraine, vous le savez, se trouve dans une situation économique catastrophique. Elle a plus que jamais besoin de réformes qui seront quoi qu'il en soit douloureuses. C'est aussi clairement un signal affiché de la part du pouvoir ukrainien à son voisin russe qu'il accuse d'agression. Il entend poursuivre son rapprochement avec l'Occident. Nommer des étrangers, c'est aussi sans doute une façon de rassurer les partenaires occidentaux de l'Ukraine, mais aussi ses bailleurs qui s'inquiètent de la lenteur des réformes et surtout de la corruption qui touche toutes les strates de la société ukrainienne. Alors après les législatives, Petro Porochenko avait émis le souhait qu'un étranger prenne la tête notamment du nouveau bureau anti-corruption. Il expliquait pourquoi. Il disait cette personne aura un avantage, elle ne sera pas le parrain ou le frère d'un autre, ce sera un technocrate éloigné des forces politiques qui pourra faire preuve d'efficacité. Voilà donc comment le président voyait les choses pour ce bureau anticorruption qui n'a pas lui encore pour l'instant de directeur, mais il a commencé à appliquer tout ça à des ministères clés comme les finances, la santé, l'économie.
Et le Premier ministre a recruté une Américaine, un Lituanien et un Géorgien. L'Américaine, c'est la ministre des Finances, hein, c'est ça?
Oui, c'est la ministre des Finances. Elle s'appelle Nathalie Yaresko. C'est une ressortissante américaine mais d'origine ukrainienne, qui a fait une partie de sa carrière au département d'État, le ministère américain des Affaires étrangères. Elle était spécialisée dans les questions économiques liées à l'ex-URSS. Elle a ensuite travaillé à l'ambassade américaine à Kiev, donc elle vivait depuis un certain temps déjà en Ukraine, et puis ensuite elle est passée dans le privé, elle a développé une compagnie de gestion d'investissements étrangers. Elle a dirigé aussi un fonds ukrainien créé et financé par le Congrès américain. Alors l'autre poste clé, c'est le ministère de l'économie. Là, c'est un Lituanien, Aivaras Abramovičius, qui est lui marié à une Ukrainienne, donc tous ont plutôt des liens avec l'Ukraine. Lui, il vient à Kiev depuis 2008. Il dirigeait jusqu'à présent une filiale qui est vienne du fonds d'investissement suédois East Capital. Et puis la santé est confiée à un Géorgien, Alexandre Kvitashvili, qui a occupé un poste similaire dans son pays et qui a lui aussi fait une partie de sa carrière aux États-Unis.
Eric nous demandait comment ces nominations ont-elles été perçues dans l'opinion publique. J'imagine qu'il y a eu débat, qu'il y a même eu polémique sur place.
Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de débats sur cette question. Il y a évidemment du pour, du contre. Certains estiment que du sang neuf ne fera pas de mal à un système qui est miné par la corruption. Il y aura peut-être moins de conflits d'intérêts, que des étrangers auront moins de difficultés à imposer ces mesures draconiennes dont l'économie ukrainienne a besoin. Il faut préciser que ces trois personnalités, on l'a dit, ont des liens profonds avec l'Ukraine. Mais l'un des problèmes, c'est qu'ils ne maîtrisent pas vraiment parfaitement l'ukrainien, ce qui peut être gênant.
Ah oui, c'est compliqué.
Voilà, avec leur contact.
En conseil des ministres.
Exactement. Et justement, les médias russes ont sauté sur cette information, ont révélé ces failles, se sont empressés de raconter que certaines réunions du cabinet des ministres s'est déroulées du coup en russe, la langue que le chef du gouvernement, Arseniy Yatsenyuk, rechigne pourtant à parler en public, et on comprend un peu pourquoi.
Il pourrait parler anglais aussi.
Il pourrait parler anglais, mais le problème, c'est que certains ministres ukrainiens ne maîtrisent pas vraiment l'anglais.
Alors, on entend aussi certaines affirmations à Kiev du type, ces nominations, finalement, c'est le signe de l'ingérence occidentale en Ukraine.
Oui, effectivement, et ça porte de l'eau au moulin des médias russes, qui estiment que la révolution ukrainienne a été sponsorisée et manipulée par les occidentaux, et en particulier par les États-Unis. Alors le bloc d'opposition, qui est l'héritier du Parti des Régions de l'ancien président Viktor Yanukovych, est aussi très critique. Il s'interroge pourquoi aller chercher à l'étranger. N'était-il pas possible de trouver des personnes compétentes parmi les 302 députés de la coalition gouvernementale, voire parmi les 40 millions d'Ukrainiens? C'est une question légitime. Et puis alors, il y a aussi quelques critiques il pourrait y avoir quelques irrégularités sur la question de l'octroi de la nationalité ukrainienne, puisque, vous l'avez dit, le président leur a accordé la nationalité par décret. L'Ukraine interdit la double nationalité. Alors si en Géorgie on est automatiquement déchu de sa nationalité dès qu'on en acquiert une autre, la procédure est plus longue et plus compliquée aux États-Unis, par exemple, ce qui pourrait signifier que la ministre des Finances n'est pas ou n'a pas été pendant un certain temps tout à fait en règle avec la loi ukrainienne.
D'accord. Eric, on a répondu à vos questions?
Oui, Juan, merci pour les réponses. Et puis voilà, merci Juan, je vais déjà dire, profiter pour lui. Merci à tous ceux qui vous aident dans l'ombre, Juan, et puis pour tout ce professionnalisme qu'ils mettent à votre, pour parvenir à cette émission.
C'est gentil, Juan. Que de compliments, ça fait plaisir. Merci Eric, bonne journée à Berlin. On remercie surtout Anastasia Bécure, qui est venue vous répondre. À bientôt Anastasia.
À bientôt.
9h18 à Paris et à Berlin. D'autres questions à la rédaction, bienvenue nous rejoindre. Bonjour.
Oui, bonjour Anne, et bonjour à Sébastien Farcy, et soyez tous les bienvenus ici à Porto Novo.
Sébastien Farcy, vous êtes bien informé, c'est le correspondant des RFI en Inde, on a dû vous souffler son nom, j'imagine, au standard. Vous avez des questions, justement, sur l'Inde, et vous souhaitez revenir sur la catastrophe de Bhopal. C'était il y a quasiment 30 ans, jour pour jour.
Et bien sûr, vraiment, il y a 30 ans a eu lieu la catastrophe industrielle de Bhopal en Inde, le plus historique accident au monde. Eh bien, retenu deux questions. La première, pourquoi le site n'a pas été nettoyé depuis tout ce temps et qui devrait assurer le nettoyage entre l'État et l'entreprise?
Alors, on va déjà répondre à cette première question. C'est vrai que 30 ans après, le poison continue encore à s'étendre puisque le site n'est toujours pas nettoyé. Sébastien Farcy, donc, est avec nous. Bonjour Sébastien.
Bonjour Juan, bonjour, bienvenue.
Alors on rappelle qu'il y a 30 ans, le 3 décembre 1984, l'usine de produits chimiques de Bhopal explose. À ce moment-là, elle libère un nuage de 40 tonnes de pesticides qui va tuer instantanément entre 3000 et 5000 personnes vivant dans les alentours. Au total, on comptera 20, 22 000, voire peut-être plus décès. On parle de 300 000 malades victimes de ce produit chimique toxique. Le site n'est toujours pas nettoyé, ça semble surréaliste. Pourquoi ?
Oui, en effet, ça a mis en fait énormément d'années déjà dans les 10 premières années à établir les premières responsabilités. Puis en 96, en fait, l'usine et tout le territoire de l'usine et des alentours qui avaient été loués par la compagnie Union Carbide a été restitué au gouvernement régional. Et alors, donc Union Carbide, en tant que locataire, avait dit nettoyer ce site, en tout cas éviter que les endroits qui avaient tous ces déchets chimiques puissent contaminer la terre et les nappes phréatiques. Donc Union Carbide, en 96, au moment de rendre ce site au gouvernement régional, a fait 2 millions de dollars de travaux pour mettre une bâche sous la terre. Parce qu'il faut savoir qu'il y a deux sites. Il y a le site de l'usine en tant que tel, qui lui est contaminé par tous ces produits chimiques qui se sont échappés dans l'air. Puis il y a surtout, beaucoup plus grave, tous les déchets chimiques qui ont été entreposés à l'extérieur de l'usine pendant des années, pendant 7 ans avant l'accident, et qui restent là, sur cette terre, qui aujourd'hui forme carrément un lac, parce que la pluie s'est posée dessus, et cette terre contient du mercure, des pesticides, et c'est là-dessous que l'entreprise a mis une bâche pour essayer de protéger et éviter cette contamination. Mais cela n'a pas été réalisé proprement, en tout cas n'a pas été efficace, car aujourd'hui on retrouve de ces pesticides, on retrouve du mercure dans les eaux des nappes phréatiques que boivent les habitants des environs sur 2 ou 3 kilomètres depuis des années.
Donc cette usine, 30 ans après, reste une bombe à retardement. La procédure est compliquée, j'imagine, pour nettoyer tout le site.
Oui, car on parle en effet de dizaines de milliers de tonnes de terre contaminées et une contamination à des produits chimiques très compliqués à traiter. On parle de capturer les dioxines, de les retraiter, une procédure très compliquée, une procédure très chère également, et qui en fait ne pourrait pas être réalisée en Inde. Alors il y a l'entreprise, l'agence de développement allemande GIZ, qui avait proposé il y a 2 ans de prendre une toute petite partie de ces terres, d'aller les retraiter en Allemagne, mais cette opération qui avait estimé être très coûteuse déjà, n'a pas pu être réalisée pour plusieurs obstacles, des oppositions de militants écologistes allemands, une soupçon de corruption aussi au niveau du gouvernement régional. Donc on voit bien la difficulté que cela la difficulté qui s'oppose à tout cela, et en plus de la lenteur administrative tout simplement du gouvernement régional, qui semble, à vrai dire, peu se préoccuper de cette intoxication.
Alors bienvenue, vous aviez une autre question.
Oui, Sébastien, les victimes réclament les indemnisations. Eh bien, est-ce que toutes les victimes ont été indemnisées? Et à qui revient alors la responsabilité de l'indemnisation ?
Alors, toutes les victimes ont-elles été indemnisées ? Sébastien, c'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a de nombreux survivants qui ne sont même pas comptabilisés comme victimes déjà.
Oui, en effet, il y a eu d'abord une première indemnisation en 89 par Union Carbide, 470 millions de dollars qui ont été versés à environ 3000 survivants, enfin à 30 000 blessés, plus aux familles des 3000 personnes décédées comptabilisées à ce moment-là. Mais bon, le problème est loin d'être réglé, comme on le dit, il y a encore énormément de blessés de cette époque qui souffrent de ces blessures, qui doivent aller à l'hôpital, donc on doit bien sûr les indemniser. À l'époque, ils ont reçu environ 400 euros, donc on se rend compte que c'est pas suffisant. Et puis, il y a la contamination qui continue. On parle en effet de 500 000 personnes qui sont touchées, affectées à différents niveaux, soit par la contamination des eaux, soit par la contamination de l'époque. Il y a un nouveau procès qui a été ouvert par le gouvernement indien. On attend donc de nouvelles indemnisations. Le gouvernement indien qui a déjà versé une deuxième partie d'indemnisation, 1 500 euros à 40 000 personnes. C'était en 2010. Donc on se rend compte que c'est une procédure qui continue depuis 30 ans. Les associations se battent, elles étaient encore en grève de la faim il y a quelques semaines à New Delhi pour demander de nouvelles indemnisations à Union Carbide et à la compagnie qui a racheté Union Carbide qui s'appelle Dow Chemicals.
À suivre donc. Merci Sébastien Farcy d'avoir été en direct avec nous. Bienvenue, bonne journée. On va continuer avec vos questions à la rédaction. On va essayer de prendre plusieurs questions concernant la lutte contre Boko Haram. En tout cas, on en a reçu quelques-unes au standard. Grégoire, bonjour.
Bonjour Juan.
On vous écoute, soyez le bienvenu. Vous nous appelez du Cameroun. Vous êtes à Douala.
Oui, je suis à Douala. J'ai appris sur vos antennes que le Nigeria mettait fin à la formation par les États-Unis d'un bataillon de son armée pour la lutte contre Boko Haram. Pourquoi une telle décision? Est-ce la fin de la coopération entre les deux pays? Et quel est le bilan de la présence des Américains depuis quelques mois aux côtés de l'armée nigérienne dans la lutte contre Boko Haram?
Alors c'est une très bonne question puisque la décision a un peu surpris tout le monde. Le Nigeria a effectivement demandé aux États-Unis de mettre fin à la formation militaire qu'elle dispensait pour l'armée américaine, qui était dispensée par l'armée américaine pour lutter contre Boko Haram. Lui Caprioli est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste des réseaux islamistes et ancien sous-directeur de la lutte contre le terrorisme à la DST, la Direction de la Surveillance du Territoire. Comment expliquer une telle décision du président Goodluck Jonathan?
Si vous voulez, je pense que cette décision s'inscrit dans une période troublée des élections présidentielles. On a tout un contexte au Nigeria qui fait que le président Goodluck est préoccupé par sa réélection, que d'une autre façon aussi, il est peu intéressé par régler la question du Nord et de Boko Haram, et qu'il a voulu affirmer l'indépendance, la souveraineté du Nigeria, qui reproche aux États-Unis de ne pas livrer suffisamment d'armes létales. Et cette décision, c'est sûr, surprend tout le monde, alors que le Nigeria fait face à une offensive généralisée de Boko Haram, surtout dans l'état de Borno du Nord-Est, avec des débordements, on le sait bien, côté Cameroun, au Niger et au Tchad. Et donc, les Américains s'étaient engagés, mais quand même avec une certaine réserve, puisque leur principe, c'était de prendre un bataillon vierge et de former ces soldats, bien sûr, aux techniques militaires et surtout au respect des droits de l'homme.
Oui. C'est surtout voilà. Ça, puisque Washington, à plusieurs reprises, s'est dit préoccupé par les violations répétées des droits de l'homme commises par l'armée nigérienne sur la population.
Bah écoutez, oui, puisque en 2009, le leader de Boko Haram avait été à l'époque, Youssouf avait été éliminé lors de son arrestation. On pensait que l'organisation, enfin le groupe, était en voie de disparition. Et puis, il a ressurgi avec Cheikhou, avec une dimension extraordinaire, avec des enlèvements qui ont été réalisés au Cameroun, avec des enlèvements, alors c'est ce qui a été déclenché d'ailleurs à Chibok, des 260 jeunes filles qui ont été enlevées à Chibok. On a eu soutien international, le président et Madame Obama se sont engagés et ça a été l'élément déclencheur pour les États-Unis de renforcer la coopération et la formation de l'armée nigériane.
Le Nigeria peut se passer de l'aide militaire américaine?
Alors il pourrait se passer, puisqu'il a un budget de 5 milliards de dollars qui représente plus de 20% du budget de l'État, il pourrait se passer. La réalité, c'est qu'on a une grande corruption dans l'armée nigériane, mais pas seulement malheureusement dans l'armée, que les soldats sont très mal payés, sont très mal équipés, et que ils fuient devant les assauts de Boko Haram. Donc les Nigériens ont besoin non seulement du soutien des...
Allô, Louis Caprioli?
Oui.
Ah voilà, il y a une petite coupure de faisceau, mais enfin ce sont des choses qui arrivent. Il nous reste deux petites minutes, restez encore avec nous, on a Bienvenue qui a une question à vous poser. Bonjour, Bienvenue.
Bonjour, je suis Rafi.
On vous écoute.
Et j'aimerais intervenir par rapport aux attaques du réseau Boko Haram. Et ma question est la suivante, comment est-ce que les pays de la sous-région coopèrent avec le Nigeria pour lutter contre Boko Haram? À savoir le Tchad, le Niger et le Cameroun.
Et le Bénin également, Louis Caprioli. Tous les pays voisins ont prôné une lutte commune contre Boko Haram.
Oui, Oui, ben c'est une lutte qui, enfin, cette décision remonte au 28 juillet dernier, après la réunion de Paris. Simplement, pour l'instant, on en est à des mots creux, puisque le principe d'une force d'action rapide de 2500 hommes a été acté. Mais pour autant, si vous voulez, ce qui est important, c'est le droit de poursuite n'a pas été retenu, puisque dès lors que le Nigeria pourrait pour entrer au Tchad, ou l'inversement, les Tchadiens rentrer au Nigeria, ça n'a pas été réglé. Et le problème aussi, c'est l'absence de moyens d'information technique, puisque tous les pays de la région, et j'allais dire, sont engagés dans la lutte contre le terrorisme, c'est-à-dire que le Tchad, le Niger, le Cameroun, hein, ils ont relevé leur niveau, même s'il y a encore des faiblesses, oui. Mais ils ont besoin d'informations, et seuls les Américains, notamment basés avec leurs drones à Niamey, peuvent leur apporter des informations. Et là, il y a une réserve de la part des Américains.
Oui, et puis les Américains, là, se sont mis à dos les autorités nigériennes après la décision du président Goodluck Jonathan. Louis Caprioli, merci d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes spécialiste des réseaux islamistes. Restez